Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
C'est la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-nous, venez sur l'antenne d'RFI pour commenter l'actualité de votre choix. C'est la libre antenne 33 9 693 693 70. Vous commentez également l'actualité sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. 20 minutes donc pour revenir sur tous les événements qui vous ont marqué cette semaine, mais aussi c'est l'occasion de nous sensibiliser à des sujets dont on ne parle pas suffisamment selon vous dans notre émission. De façon plus générale, sur l'antenne d'RFI. Vous êtes nombreux à souhaiter réagir à la crise migratoire en Europe. Je vous rappelle que cette semaine, la Commission européenne a présenté son plan censé permettre aux pays membres de faire face à l'afflux de réfugiés. Jean-Claude Juncker veut que les États membres se répartissent 160 000 réfugiés au cours des deux prochaines années. Oumed, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Poitiers et vous êtes scandalisé par l'attitude de certains pays d'Europe centrale.
Absolument, Juan. Je suis scandalisé dans la mesure où, selon les informations que j'ai recueillies auprès de Agence internationale sur les 28 États de l'Union que compte l'Union européenne, 17 États refuseraient, je parle au conditionnel, d'accueillir le moindre réfugié. C'est absolument scandaleux dans la mesure où les bombes de fils Assad, de Bachar al-Assad, ne font pas de différence. Pour certains aussi, certains États refuseraient les réfugiés, ou alors ce serait un choix sélectif en mettant en avant la confession religieuse. Ça aussi, c'est absolument scandaleux, inacceptable, inadmissible dans la mesure.
Oui. Certains États acceptent d'accueillir des réfugiés, mais à condition qu'ils soient chrétiens. Et on a entendu effectivement les propos du Premier ministre slovaque, qui ont rapidement été dénoncés, notamment par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Robert Fico, le Premier ministre slovaque, disait « On va quand même pas accueillir 300 000, 400 000 migrants musulmans. On verrait tout d'un coup des mosquées dans notre pays. Ça va forcément changer, je le cite, la nature, la culture et les valeurs de notre État. »
C'est totalement faux dans la mesure où, Juan Gomez, écoutez, moi-même je suis réfugié de confession musulmane d'origine africaine, ça ne m'a jamais empêché, ni moi ni ma famille, de m'intégrer dans la société française, je me sens tellement bien, tout simplement, il y a des garde-fous dans chaque État a des garde-fous, il y a ce qu'on appelle des lois. Les lois de la République doivent être respectées par aussi bien par les musulmans que par les chrétiens ou de toute autre confession religieuse. Ça n'a absolument rien à voir. La République est une chose, la confession religieuse en est une autre.
Oumed, vous parlez de pays d'Europe centrale, mais ce genre de propos, on l'a entendu dans la bouche de certains maires en France, des maires qui ont suscité la polémique en disant, voilà, on va accueillir des réfugiés, mais des chrétiens.
Ce ne sont que des maires qui sont totalement isolés, hein, comme à Béziers ou alors dans l'Isère quelque part, dans le département de l'Isère, mais ça c'est un faux problème. L'immense majorité des Français, l'immense majorité des maires de France, des communes de France, ne réagissent pas, ne pensent pas comme ceux, certainement, d'extrême droite. Mais bon, ça c'est tout simplement politique, c'est électoraliste comme argument qu'ils avancent. Mais il y a toujours eu 5 millions de musulmans en France qui sont parfaitement... Tous les musulmans ne sont pas des fauteurs de troubles ou encore des terroristes potentiels.
Quoi. En tout cas, Manuel Valls, le Premier ministre, a réagi après que plusieurs maires aient tenu de tels propos. Le Premier ministre a été très clair, on ne trie pas en fonction de la religion. Le droit d'asile, c'est un droit universel. Fin de citation. Merci Oumed d'écouter RFI à Poitiers sur Internet, RFI.fr. Herbert, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs.
Vous nous appelez, vous, de la région parisienne. Vous allez un peu plus loin que les propos d'Oumed à l'instant qui disait la majorité des Français sont favorables à l'accueil des réfugiés. Vous, vous saluez le courage politique de François Hollande.
Absolument. Je me réjouis que François Hollande ait décidé effectivement d'accueillir les 24 000 réfugiés syriens sur notre territoire. C'est une décision qui va honorer la France et j'estime pour ma part que François Hollande a fait preuve d'un courage politique au regard des résultats des sondages de la semaine dernière qui indiquaient pourtant que 55% des Français étaient opposés. Mmh. Et malgré les discours justement de peur, de haine véhiculés par la droite et l'extrême droite, la mentalité, en tout cas l'opinion publique a évolué favorablement, puisque aujourd'hui on atteint 53% de l'opinion favorable. Moi je voudrais dire d'ailleurs, profiter de l'élan de Solidarité Nationale pour aller plus loin et exhorter les pouvoirs publics, et notamment François Hollande, d'aller plus loin et d'accorder, si ce n'est reconnaître, un droit d'asile aux migrants économiques, parce que vous comprenez bien que on ne peut pas hiérarchiser le malheur, on ne peut pas graduer le malheur. La cause qui produit l'émigration des populations, ont les résultats, en tout cas les mêmes résultats tragiques, c'est la mort. C'est-à-dire que un migrant qui fuit la guerre est égal à un migrant qui fuit la misère. Donc on ne peut pas séparer les deux et en tout cas faire la distinction.
Ouais, sauf que là, quand il s'agit d'accueillir 160 000 personnes, ce sont des réfugiés qui fuient la guerre en Irak, en Afghanistan et surtout en Syrie. D'ailleurs, 160 000 personnes, ça semble énorme comme chiffre, mais c'est un chiffre qui semble déjà obsolète, puisque l'Allemagne a accueilli 450 000 réfugiés depuis le début de l'année. Quand vous dites que François Hollande a un courage politique en acceptant d'en accueillir que 24 000, j'ai envie de dire que voilà, l'Allemagne est en première ligne, l'Allemagne montre davantage sa solidarité que la France.
Non, notamment, on n'a pas la même configuration économique dans les deux pays. L'Allemagne a un déficit démographique, ne l'oublions pas, la population allemande est vieillissante, donc il y a bien un problème d'ici 15-30 ans de la répartition des richesses, notamment de pouvoir payer les retraites. Donc l'Allemagne a plutôt intérêt, sur le plan économique, d'accueillir, en tout cas en grand nombre, les populations.
Mais j'ai envie d'ailleurs, le patron allemand soutient Angela Merkel dans sa politique d'accueil des réfugiés, car tout le monde sait effectivement que ces réfugiés, d'une certaine façon, représentent l'avenir de l'Allemagne. Déficit démographique, manque de main-d'œuvre, et évidemment, tous ces réfugiés vont combler ce manque. Ne raccrochez pas, Herbert. Je voudrais qu'on accueille Philippe, toujours sur ce dossier. Il nous appelle, lui, de Paris. Bonjour, Philippe.
Bonjour Juan.
Alors tout à l'heure, Oumed, lui, était scandalisé par l'attitude de certains pays d'Europe centrale. Vous êtes scandalisé par le silence des pays du Golfe.
Absolument, par la Ligue arabe en général et par les pays du Golfe en particulier, comme l'Arabie Saoudite, Dubaï, le Qatar, etc., qui sont des pays qui sont dans la même région, qui n'offrent aucune aide, aucun support à tous ces réfugiés. Et ça me choque beaucoup, parce que je pense que la solidarité ne doit pas être uniquement européenne. C'est bien qu'elle soit effectivement que des réfugiés soient accueillis en Europe, mais il faudrait aussi que d'autres pays qui en ont la capacité puissent accueillir aussi des réfugiés.
Donc effectivement, ces pays, ces monarchies sont géographiquement proches de la Syrie, religieusement proches également des réfugiés syriens. Ces pays du Golfe n'ont accueilli aucun réfugié syrien depuis le début de la crise. D'ailleurs, la très grande majorité des réfugiés syriens, faut le rappeler, sont en Turquie, qui accueille en ce moment 2 millions de personnes. Le Liban accueille 1 million de personnes. 630 000 réfugiés syriens vivent en Jordanie. Les monarchies du Golfe, elles disent, mais enfin, on fait quand même notre part du travail, du boulot, si vous me permettez cette expression, car on finance à coups de milliards la construction de camps de réfugiés, justement, dans ces pays, la Turquie, le Liban et la Jordanie.
Moi, je pense que ce n'est pas suffisant, justement, quand on voit le cas du Liban, qui est un tout petit pays, qui a un nombre très important de réfugiés, c'est vraiment considérable par rapport à sa population. Moi, je serais pour une négociation, en fait, entre les autorités de l'Union européenne et les membres de la Ligue arabe, et pourquoi pas aussi de l'ONU, pour pouvoir se concerter et essayer de répartir, je dirais, de manière équitable, des réfugiés, parce que c'est vrai que c'est bien de financer, de donner de l'argent, mais ce n'est pas suffisant, je pense. Parce que ces réfugiés ont besoin de vivre en sécurité, dans un pays en sécurité. Et des pays comme les monarchies du Golfe ont déjà beaucoup des millions de personnes étrangères qui travaillent chez eux. Donc ils ont tout à fait la capacité, l'habitude d'avoir des personnes qui viennent dans leur pays. Et voilà, donc ils doivent prendre leur part de responsabilité, je pense.
Ouais, en tout cas, Sami Bourkhalifa du service international des RFI disait hier, justement, en répondant à une question d'auditeur, que ces pays du Golfe assumaient clairement leur position. Et il citait les propos d'un responsable du Conseil de coopération des pays du Golfe, qui disait, bon, on ne peut pas accueillir de réfugiés syriens. D'ailleurs, je cite, le niveau de vie dans les monarchies est trop élevé pour les réfugiés. Voilà. Merci Philippe de nous avoir interpellé sur cette question. Herbert, je vous ai coupé la parole. Vous souhaitez peut-être donner une petite conclusion?
Oui, indiquer les initiatives qui ont été prises au sein des différents départements et notamment mon département de résidence, hein, la Seine-Saint-Denis. Je peux noter par exemple que le président socialiste Stéphane Trossel a permis notamment aux familles et donc aux femmes et aux enfants de pouvoir donc des familles immigrées réfugiées pour pouvoir accéder aux soins, donc aux consultations médicales. Et ils vont débloquer des enveloppes pour pouvoir soutenir les associations et accompagner donc l'accueil de ces réfugiés. Donc
la solidarité nationale. Merci, je vous coupe Herbert, il y a beaucoup d'auditeurs sur d'autres sujets. Merci à vous de nous avoir appelés, merci à Oumed de Poitiers et à Philippe de Paris. On aura évidemment l'occasion de revenir sur cette actualité dans les prochains jours. On a reçu le courrier électronique de Saskia qui nous écoute à Beyrouth au Liban. Bonjour Saskia.
Bonjour.
On vous a rappelé car vous nous avez envoyé votre numéro de téléphone et vous souhaitez vous profiter de la libre antenne pour nous interpeller sur la crise des déchets qui secoue votre pays depuis maintenant plusieurs semaines, la crise du ramassage des ordures ménagères. En fait, pour planter le décor, Saskia, depuis la fin juillet, les poubelles ne sont pas ramassées à Beyrouth.
Alors voilà, depuis mi-juillet, en fait, les poubelles sont pas ou peu ramassées. Donc les premières semaines, elles n'étaient pas du tout ramassées. Dû à la fermeture de la déchetterie principale pour la grande région de Beyrouth, qui est à Néamey, qui est en sursaturation. Donc les populations ont obligé la fermeture et il n'y avait pas du tout de plan de sortie, plan de crise. Et donc pendant plusieurs semaines, on s'est retrouvé avec des montagnes de déchets. Maintenant, sur Beyrouth même, la situation va un peu mieux dans le sens où les bennes sont vidées régulièrement, pas comme pendant la situation normale, mais régulièrement quand même. Mais la question, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils les jettent. Et le grand drame de cette situation, c'est qu'en fait, on réalise que les décharges sauvages se multiplient à droite à gauche. Le fleuve de Beyrouth est complètement bloqué à cause des montagnes de déchets. Il y a des photos qui circulent montrant dans les forêts aussi, les camions qui vident leur benne dans des forêts, dans des vallées, dans des fleuves. Enfin voilà, c'est une
situation. Mais ce qui est intéressant, Saskia, de remarquer, de souligner, c'est que au-delà des conséquences sanitaires et environnementales, on sent bien un vrai ras-le-bol de la population. Il y a quand même eu ces dernières semaines de grandes manifestations rassemblant des dizaines de milliers de personnes de toutes confessions, de tous les partis politiques pour exprimer vraiment leur ras-le-bol et leur frustration. Car cette crise, certes, c'est une crise des poubelles, mais ça va beaucoup plus loin que ça.
Voilà, exactement. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, parce que c'est vrai que le Liban... déjà, il faut rappeler que depuis un an et demi, il n'y a pas de président. Donc, il y a une espèce d'État comme ça qui avance, mais sans trop de direction. Toutes les décisions politiques sont bloquées, soit par un camp, soit par l'autre. Depuis toujours, il y a un manque crucial d'eau, alors que le Liban est quand même un pays avec plein de ressources naturelles, des montagnes, on fait du ski en hiver, et c'est quand même incroyable qu'on arrive à la fin de l'été, et là, il y a déjà plus d'eau dans les citernes. L'électricité, c'est pareil, c'est de pire en pire. Il y a des coupures qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus longues. Ouais. Donc voilà, tout ça, ça a été une allumette qui est venue
allumer le mécontentement de l'opinion publique libanaise, d'où le succès des manifestations de ces dernières semaines. La population qui accuse sa classe politique d'être incapable finalement de répondre à leurs attentes. Merci Saskia de nous écouter à Beyrouth au Liban. Merci vraiment de ce témoignage. 33 9 693 693 70. Nous accueillons Emery. Bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Vous êtes à Kinshasa et vous nous interpellez sur l'interdiction de projeter à Kinshasa le film consacré au gynécologue congolais Denis Mukwege, un film réalisé par Thierry Michel et Colette Bregman qui s'intitule L'homme qui répare les femmes. Ce film devait être diffusé cette semaine à l'Institut français. Le gouvernement, lui, a refusé de donner son feu vert et vous êtes scandalisé par ce refus, par cette interdiction.
Oui, effectivement, je trouve cette interdiction tout à fait inadmissible parce que je me dis que la raison invoquée par le gouvernement pour l'interdiction de ce film n'est pas fondée, prétendument que ça salit l'image de l'armée. Et il ne faut pas oublier que dans ce pays...
Alors, je rappelle simplement que ce film, Emery, je rappelle simplement que ce film met en lumière le drame des viols dans l'est de la République démocratique du Congo, des millions de femmes... Oui, violée ces 10-15 dernières années par les différents groupes armés. Et effectivement, à un moment donné dans ce film, le gouvernement estime que ça donne une mauvaise image de l'armée, car le film pointe du doigt à un moment donné, effectivement, l'armée congolaise.
Mais on n'oublie pas que le viol a été systématiquement utilisé comme une arme de guerre au cours de ces dernières années. C'était une arme de guerre utilisée par les différentes parties pour pouvoir s'imposer auprès de auprès de l'autre. Donc, et n'oublions pas aussi que dans cette armée, parce que moi ce qui m'étonne, c'est que il y a eu brassage. Donc vous avez un monsieur comme par exemple Bosco Ntaganda qui est aujourd'hui à la CPI, qui a été général des forces armées congolaises. Et ce monsieur, on sait comment il s'est comporté. Il a même un surnom de Terminator. Donc vous voyez que cette raison qu'on a donnée à avancer ne tient pas la route. Et surtout, moi ce qui me scandalise le plus, c'est que ici à Kinshasa par exemple, on n'arrive pas à appréhender réellement l'ampleur de l'horreur qu'ont vécu les populations de l'Est. Et voilà un homme, docteur Denis Mukwege, qui redonne espoir à toutes ces femmes, qui reconstitue toutes ces femmes. Et qui a eu des prix, de nombreux prix internationaux.
Effectivement.
Et que dans son pays, il n'est même pas reconnu pour le travail qu'il est en train de faire.
Ouais. Je rappelle que Denis Mukwege a même été pressenti ces trois dernières années pour le prix Nobel de la paix. Et effectivement, il a reçu des prix prestigieux comme le prix Sakharov. C'était l'année dernière, prix décerné par le Parlement européen. Donc vous avez l'impression qu'on considère davantage son travail à l'étranger que dans son pays.
À l'étranger, alors que dans son pays, il n'a jamais été invité par le gouvernement, il n'a jamais été reçu par le président de la République, il n'a jamais reçu aucun prix national, ce qui est quand même désespérant. C'est un monsieur qui donne de l'espoir dans un océan de malheur à toutes les femmes. Donc, on a l'impression aussi qu'il gêne. On a l'impression que son aura international gêne un peu le gouvernement en place. Puisque depuis un certain nombre d'années, on est toujours en train de lui chercher noise un peu, en essayant de mettre un terme, disons, à ses différentes activités, par exemple en mettant son hôpital là.
Sa clinique, effectivement.
En gelant ses comptes.
Effectivement. Emery, je vous interromps. On arrive à la fin de l'émission. C'était très intéressant de s'entretenir avec vous. Merci de nous avoir appelés. Désolé pour ceux qui patientaient au standard. C'est vrai qu'on a été un peu bavard, mais les sujets, voilà, méritaient du temps, de la réflexion. Et désolé pour ceux qui souhaitaient commenter le procès d'Issénabré. On en a déjà parlé cette semaine ensemble et on y reviendra, c'est promis, dans les prochaines semaines. Merci à tous de votre fidélité. Je vous rappelle, lundi, émission spéciale avec toute l'équipe de Priorité Santé, dont Claire Hédon, évidemment. Claire, bonjour.
Bonjour, Juan, ça va être compliqué lundi si vous êtes trop bavard.
Non, vous inquiétez pas, on donnera la parole aux auditeurs et à nos invités pour parler de la lutte contre les faux médicaments. À partir de lundi, une grande campagne internationale sera lancée pour informer justement le grand public, car ces faux médicaments tuent des milliers de personnes chaque année. Vous avez sûrement des questions à nous poser, vous avez sûrement des témoignages témoignages à nous livrer, eh bien surtout n'hésitez pas, appelez-nous, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, le numéro de téléphone 33 9 693 693 70. Et j'en profite également avant de vous donner la parole, Claire, pour signaler que mercredi, RFI proposera également une journée spéciale en direct de la Fondation Cartier à Paris à l'occasion de l'exposition Beauté Congo dont RFI est partenaire. 80 ans d'histoire moderne, de l'art contemporain en République démocratique du Congo. L'occasion pour vous tous, si vous vous intéressez à l'art africain, de nous poser justement vos questions sur l'art contemporain africain. Claire.